La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est le moment de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Oui, pourquoi est-ce que nous mettons nos cheveux à la poubelle quand on les coupe? Eh bien, sachez qu'il existe une solution qui fait du bien à la peau et à la planète et elle s'appelle Capilum, Elisabeth.
Oui, parce qu'en France, les cheveux, ce sont 4000 tonnes de déchets par an et cette start-up Capilum, qui existe depuis moins d'un an, collecte les cheveux des salons de coiffure. Savez-vous pourquoi?
Non.
Eh bien parce qu'ils veulent en extraire la kératine. La kératine, c'est une protéine, hein, c'est un élément structurant des poils, des plumes, des ongles, du cheveu. Et le cheveu est composé de 95% de kératine. Et cette kératine, c'est elle qui protège les cheveux des UV, de l'eau de mer par exemple. Et l'idée de Capilum, eh bien, c'est que cette kératine aide à régénérer la peau des grands brûlés ou alors elle peut aider aussi à dépolluer parce que les cheveux absorbent 9 fois leur poids en hydrocarbures. Vous allez tout nous expliquer. Bonjour Clément Baldelou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes
Merci à vous.
Le cofondateur de Capilum. Alors d'abord, pourquoi le cheveu? C'est parti de quoi?
Alors c'est parti de quoi? Avec James, donc mon associé, on était dans la même promo et on réfléchissait sur les déchets d'aujourd'hui sont les ressources de demain. Et c'est vraiment après... plusieurs réflexions et pendant notre master qu'on a décidé de se concentrer sur les cheveux. On est allé voir nos coiffeurs respectifs qui nous ont dit « nous on les jette ». On a suivi l'avis du cheveu une fois qu'il était coupé, Suez, Veolia, qui nous ont dit « ça crée des problèmes environnementaux le fait que le cheveu ne soit pas recyclé aujourd'hui ». Donc on s'est dit « il faut trouver une solution ». Les coiffeurs sont considérés comme un métier polluant aujourd'hui. On veut les faire rentrer dans une démarche éco-responsable en enlevant le cheveu du circuit des déchets pour le valoriser.
Donc vous allez les récolter auprès de plusieurs, de centaines de salons de coiffure. Et ensuite, vous en faites quoi?
Tout à fait. Alors déjà, on a mis une logistique en place via une filiale logistique du groupe La Poste, qui s'appelle Urbi. Mm-hmm. On est également en discussion avancée avec le groupe La Poste pour pouvoir trouver une solution nationale, solution qu'on a trouvée. Et on a récupéré sur Clermont-Ferrand pour trouver un process. Aujourd'hui, on met à disposition des bacs adaptés chez les coiffeurs, qui, dès qu'ils ont le bac plein, nous venons eh bien, récupérer cette matière-là.
Une fois récupérée,
eh bien, nous avons 3 secteurs d'activité. C'est pour ça qu'on se positionne comme une véritable filière de valorisation du cheveu. Peut-être que demain, on trouvera encore d'autres applications pour le cheveu, parce qu'il a des propriétés qui sont exceptionnelles. Alors oui, la kératine, qui est encore en phase de recherche, puisque eh bien, nous avons su extraire cette kératine-là, la kératine fait partie intégrante de la peau et a des vertus cicatrisantes. Et donc, on se positionne sur le marché de la régénération de la peau des grands brûlés. Mais le cheveu, en tant que fibre, nous pouvons l'utiliser. L'utiliser donc pour des logiques de dépollution, mais aussi pour des applications horticoles, parce que le cheveu est bon pour le jardin également.
Alors, mais quand vous dites que donc, vous voulez valoriser cette la filière du cheveu, vous faites comment, par exemple, les cheveux pour les grands brûlés? Vous allez les déposer dans des laboratoires? Vous en faites quoi ensuite? Alors, vous avez des interlocuteurs pour ça?
Tout à fait. Alors, on travaille avec des laboratoires et des industriels. Le laboratoire que nous avons utilisé jusqu'à aujourd'hui, c'est un laboratoire qui nous a été mis à disposition puisque nous avons gagné un concours sur la région de Clermont, qui nous a permis d'établir nos tests et nos extractions de kératine. On s'était d'ailleurs mis en collaboration avec l'ICCF, donc l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand.
Donc là, un laboratoire pour les grands brûlés. Et c'est comme ça avec chacun de vos interlocuteurs.
Exactement.
Que dit notre coach, Eric Lemaire?
Eh bien, je dis qu'il présente très très bien son entreprise. Clément, c'est une excellente idée. Il a une très belle chevelure, d'ailleurs, je tiens à le dire.
Merci,
aussi. Ouais. Et puis Clermont, alors j'ai une affection particulière pour Clermont, parce que j'aime beaucoup le rugby, et notamment ce club. Voilà, une fois que tout ça est dit, je me disais que moi, j'ai débarqué complètement, je ne savais pas du tout que ça existait, que le cheveu avait autant de propriétés, mais les ongles, comme vous avez dit aussi, donc on pourrait peut-être faire aussi des ramassages chez tous ces petites shops qui s'ouvrent là. Non, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'embarquer encore plus les coiffeurs en leur donnant un label éco-responsable ou,
absolument,
je ne sais pas, votre coiffeur soutient la recherche, par exemple, ça aiderait aussi peut-être déjà en avoir d'autres.
Il y a d'autres associations, voilà. Il y a les coiffeurs
bien sûr, qui travaillent dans un label. On travaille évidemment dans un but commun, on n'a pas exactement le même modèle, mais par exemple, pour revenir sur ce que vous dites, qui est une très très bonne remarque, nous on veut fédérer cette communauté, on veut faire en sorte que les coiffeurs aient le bon geste, on intervient déjà auprès des écoles de coiffure pour apprendre le bon geste aux nouveaux coiffeurs, et on met en place évidemment un label, une sorte de label Capilum qui permet en fait de créer ce sentiment de communauté, de coiffeurs engagés.
Une fois que vous avez déjà eu du résultat, bon, votre entreprise est jeune, elle date d'avril 2019, mais est-ce que déjà vous avez vu le résultat des cheveux récoltés?
Ah oui, bien sûr.
Alors, sous quelle forme?
Alors, à Clermont-Ferrand, on a récupéré plus d'une tonne de cheveux déjà. Et puis, sous quelle forme, en fait, on arrive à faire ce qu'on appelle du textile technique. Donc, ce sont des tapis de cheveux qui serviront donc pour les applications de dépollution et des applications horticoles. Et pour la kératine, c'est une petite poudre blanche que nous arrivons à faire.
Moi, j'ai une question pour les particuliers. Oui, vous avez parlé de partenariat avec La Poste. Est-ce que demain, je pourrais, une fois que je nettoie ma brosse, vous envoyer mes cheveux?
Absolument. Alors, ou ça sera du dépôt sur des points d'apport volontaires directement à La Poste ou chez un coiffeur. On part du principe que tout le monde a un coiffeur, en général. Et donc, la meilleure des façons, c'est d'aller lui en parler.
Levée de fonds prévue, je
crois. Oui, il y a une levée de fonds qui était prévue. Votre levée de fonds, c'est en deux temps, je crois que 300 000 euros cette année, l'objectif?
C'est ça, première année, 300 000 euros, deuxième année également, 300 000 euros.
Et ensuite, puis vous explosez les compteurs.
Écoutez, j'espère bien.
3 millions d'euros, mais on vous le souhaite,
Oui, merci beaucoup.
Pour réinvestir, pour embaucher.
Oui, exactement, oui.
En tout cas, ça s'appelle Capilum. C'est une très, très belle initiative que la vôtre. Merci d'être venu nous parler de cette solution aujourd'hui en direct.
Merci
sur
beaucoup
Europe 1.
Et parlez-en à votre coiffeur.
Oui, évidemment.
Il nous écoute. Il est midi 58.
Europe 1.
Comment écoutez-vous la musique? Tiens, bonne question. Dans votre voiture, en streaming, dans le métro, avec vos écouteurs, c'est elle qui est à l'honneur aujourd'hui. Et vous allez voir que depuis l'époque du tourne-disque et des cassettes, ça a bien changé. Et oui, c'est ça, la France qui bouge. À tout de suite.
Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Soyez les bienvenus dans La France bouge. Ici, vous le savez, le son est à l'honneur, évidemment. Et quand on travaille comme nous dans une radio, notre ambition est de mettre un produit de qualité entre vos oreilles. Et qui dit radio dit aussi musique, bien sûr. C'est aujourd'hui que le syndicat de l'édition phonographique livre son bilan pour l'année écoulée et regarde aussi devant pour évoquer les perspectives du marché. La musique enregistrée, c'est ce que nous avons tous dans nos téléphones. Et on va le voir, hein, d'ici quelques minutes, le marché se porte mieux. Jugez plutôt, ce sont 785 millions d'albums qui ont été enregistrés l'année dernière. Et d'ici 10 ans, il paraît que le marché devrait flirter avec les 45 milliards de dollars parce que nous sommes évidemment de plus en plus nombreux à nous offrir des abonnements musicaux notamment. Cette passion pour la musique, elle démarre forcément dès le plus jeune âge. Bonjour Patrick Fabre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Munki. Alors ça s'écrit M-U-N-K-I.
Tout à fait.
Vous avez mis au point le premier service de streaming audio pour le jeune public. Il faut dire que vous avez dans votre famille, je crois, une artiste jeune public. Et c'est comme ça finalement que l'aventure démarre. On est en 2012.
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux dimensions hein, vraiment au démarrage de ce projet. La première, c'est l'expérience personnelle. Je rappelle qu'on est deux cofondateurs avec mon associé Gilles Lévy et également parents à nous deux de quatre enfants. Alors, ils sont grands maintenant, mais dans les années 2000, au moment où on commençait à apparaître tous ces nouveaux services de diffusion audio, ils étaient en train de grandir et on a découvert YouTube, puis iTunes, les plateformes de streaming Spotify et Deezer. Et notre expérience, je vais raconter une petite expérience personnelle, mais à mon avis, elle parlera à tous les parents. Ça a été de commencer à s'en servir aussi pour les enfants, parce qu'on était des adeptes assez enthousiastes de ces nouveaux services. Donc je reviens un jour de la crèche avec mon petit dernier, il me chante une chanson, une comptine qu'il a apprise à l'école. Et je craque, je me dis ça c'est trop beau, il faut absolument qu'on le partage ce moment ensemble. Et quel est le premier réflexe? Je vais sur YouTube pour essayer de la retrouver. Et je la trouve effectivement et je tombe sur une vidéo amateur avec un dessin animé un peu improbable et un son voilà, plutôt bricolé. Mais enfin, en tout cas, on la trouve, quoi. Le problème, c'est qu'ensuite, on va peut-être continuer cette expérience. Puis je m'échappe dans la cuisine pour deux minutes et je reviens. Et tiens, il a cliqué sur une publicité, il est parti sur un autre site. Même quand je reste avec lui, il tombe sur des publicités qui ne sont pas appropriées et parfois même, j'ai envie de dire, mal intentionnées. Bien que, et particulièrement parce qu'elle vise les enfants. Donc ça, c'est la première partie de l'expérience personnelle, très satisfaisante, à la fois sur la qualité des contenus audio et puis sur l'expérience d'usage, j'ai envie de dire.
Donc vous vous dites, il y a quelque chose à faire.
Là, il y a vraiment un problème. En tout cas, on n'a pas encore mûri l'idée, mais il y a un problème évident. Ensuite, mon parcours professionnel personnel m'amène aussi à ça, sous l'autre aspect des choses, je vois l'envers du décor. En 2012, je fonde avec une artiste jeune public qui s'appelle Hélène Bowie une maison de disques pour enfants.
Un label.
Voilà, un label qui a pour mission de commercialiser, de distribuer une série d'albums pour enfants. Et là, on découvre la réalité économique de ceux qui produisent et des artistes qui sont les interprètes sur ces albums audio pour enfants. Et là, ça va mal parce que, en fait, c'est la crise du disque, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire les CD se vendent de moins en moins bien et la monétisation sur les services numériques ne compense pas du tout les revenus perdus sur le CD.
Oui, il faut dire que jusqu'en 2013, effectivement, les chiffres n'étaient pas bons. Justement, les chiffres du marché français de la musique sont tombés ce matin. Ça va un peu mieux,
oui.
Elisabeth. Hein.
Alors, les chiffres sont loin de ceux du début des années 2000. Entre-temps, la crise est passée. Mais grâce à l'impulsion du streaming payant, le marché de la musique poursuit son redressement. C'est un marché qui affiche une croissance soutenue de 5,4%. C'est la quatrième année de suite de reprise depuis le début de la crise. 625 millions d'euros pour les ventes, que ce soit en magasin physique ou grâce au numérique. Et c'est un niveau de croissance que l'on peut comparer à celui de 2016.
Alors Patrick Favre, vous lancez ce service. Comment est-ce que vous développez cette appli sur mobile? On va d'ailleurs en écouter un extrait dans quelques instants. Voilà.
En route vers le vieux sage,
qu'est-ce qu'on entend là par exemple? Arthur H, non?
Alors Arthur H, exactement. C'est un merveilleux conte édité par les éditions Éveil et Découverte. Voilà, un conte oriental voilà, qui fait partie de ce catalogue assez extraordinaire, parce que si vous voulez, une des frustrations que nous on a eu aussi comme parents, c'est qu'on avait été des consommateurs assez assidus de cette merveilleuse production française, une exception culturelle vraiment, en CD et en livre CD qu'on trouvait dans les bibliothèques à la FNAC. Et notre grande frustration, ça a été de ne plus pouvoir la redécouvrir en numérique. Et on s'est donné vraiment comme mission de ramener à l'ère du numérique cette offre culturelle auprès des parents.
Du coup, vous êtes disponible dans les bibliothèques, c'est-à-dire qu'au lieu de prêter un CD, on va télécharger l'appli et avoir à disposition tout ce catalogue avec des histoires, avec des musiques originales aussi.
Voilà, alors la difficulté pour tous ceux qui écoutaient de l'audio pour enfants, c'est la disparition du CD nous amène à nous dire, mais comment on va faire? Donc dans les bibliothèques, c'est un vrai problème pour eux. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils faisaient découvrir des contenus, qui étaient le début d'une consommation qui allait ensuite se poursuivre dans les magasins, la FNAC, etc. Mais au début, on prête un CD ou on prête un livre CD. Et là, ils ne pouvaient plus le faire parce que les parents commençaient à leur répondre « Mais écoutez, moi, je n'ai plus de lecteur CD. Il n'y en a plus sur mon ordinateur, il n'y en a plus dans la voiture, et ainsi de suite. » Donc, on a commencé à apporter une série de services pour les bibliothèques, à la fois pour écouter sur place, voilà, avoir accès au contenu avec des bornes, avec des casques, où les familles peuvent venir écouter les contenus, et à la fois chez soi, à la maison, où la bibliothèque peut mettre en avant des contenus et les faire découvrir aux parents sur l'application.
Oui, j'ai téléchargé ce matin, effectivement. On a tout un tas de possibilités qui nous sont offertes. Question de notre coach, Éric Lemaire.
Oui, moi je trouve ça très bien de rassembler tous ces contenus, vraiment, je trouve ça super. J'avais deux petites remarques simplement. La première, elle est sur le fait que on va protéger un peu les enfants, comme vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous on est très attachés dans mon entreprise sur le permis internet, etc. Donc ça c'est très bien. Après, c'est sur l'accoutumance en fait des enfants aux tablettes. Je me pose des questions parce qu'on voit que c'est de 3 à 8 ans à peu près ce que vous avez fait. Et on se dit, est-ce qu'il ne faut pas le faire avec eux? Et c'est peut-être ça que vous donnez comme conseil. Parce que si on les laisse tout seuls avec ça pendant 3 heures en disant c'est super, là, il va regarder, écouter plein de trucs et je vais être tranquille, est-ce qu'après il ne peut pas y avoir des petits dérapages dans le fonctionnement?
Bon alors, il faut bien voir déjà qu'on s'est absolument concentré sur l'audio. Il faut comprendre ce qui se passe et il faut regarder un enfant en train d'utiliser cette appli, par exemple. Effectivement, on ne préconisera pas avant 3 ans. Là, c'est le parent qui va utiliser l'application et qui va découvrir un catalogue exceptionnel qu'il ne trouvera nulle part ailleurs et qu'il pourra diffuser sur une enceinte, etc. Mais quand les enfants sont un petit peu plus âgés, ils peuvent s'en servir. D'abord, ils se retrouvent dans un espace sécurisé, ce qui n'était pas le cas quand on était sur un site web ou même sur un service de streaming où vous avez toutes sortes d'autres contenus. Et ensuite, la pratique de l'audio, vous allez le remarquer si vous regardez les enfants, et nous, on a été vraiment frappés par ça, c'est-à-dire, vous avez là juste une interface, justement pas comme YouTube, pas avec des images, qui est véritablement un outil sur lequel on appuie pour pouvoir lancer du son, et ensuite, c'est l'imaginaire immédiat qui prend le dessus, c'est-à-dire, vous voyez l'enfant qui rêve, qui regarde par la fenêtre, qui regarde même parfois l'enceinte elle-même, et qui part dans l'imaginaire. Donc c'est au contraire une façon, j'ai envie de dire, d'anesthésier l'écran.
On reste ensemble et on continue à parler musique aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h20. Europe 1.
Écouter de la musique, c'est aussi vouloir la ressentir. Eh bien, figurez-vous que c'est possible aujourd'hui et de manière plutôt originale avec Basmi. À tout de suite. Cet après-midi dans La France Bouge, on parle des innovations dans le domaine de la musique. Et vous, comment écoutez-vous votre musique? Dites-le nous, réagissez, posez vos questions à nos invités également via Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez aussi nous appeler au 3921, Raphaël.
Oui, venez nous rejoindre, on vous attend. Et alors, vous savez, oui. Céline, quand on a un père chanteur, forcément, la musique est partout. C'est ce qui s'est passé pour vous, Raphaël Guichard, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez grandi à Béziers, dans le sud de la France.
C'est ça, exactement.
Votre père Daniel Guichard, vous a très tôt initié à la pratique de tout un tas d'instruments. Et alors, en 2017, vous faites une rencontre avec Alban.
C'est ça, avec Alban Duroy, tout à fait. Donc, c'était une rencontre au Startup Weekend de Perpignan. Donc, le Startup Weekend, c'est un concours organisé par Google Entrepreneur. Donc, il y en a plein dans toute la France, dans le monde entier. Et donc, j'ai rencontré Alban à ce moment-là. Donc, il est arrivé avec une idée. Donc il a pitché devant un amphithéâtre de plein de gens. Moi, je suis arrivé pour proposer mes services. Et donc, il a pitché une idée. De caisson de basse, voilà, cet appareil-là qui permet de ressentir la musique, ressentir les vibrations.
Alors, on va expliquer parce que, évidemment, moi j'ai un casque sur les oreilles qui n'est pas le casque habituel, qui est votre casque.
Tout à fait.
Et j'ai mis une. Comment est-ce que
cette
vous
appelez espèce
ça
d'appareil, c'est ça, tout à fait.
Donc
c'est
Basmi. Qui se place au-dessus de l'épaule.
Exactement.
Et qui vient sur le thorax.
Comme une once de sac.
Tout à fait.
Et qui permet en fait de ressentir la musique. C'est-à-dire que là, en fait, je suis en train de vous parler, mais j'ai de la musique dans les oreilles que vous n'entendez pas. En revanche, moi, je la sens dans mon corps.
C'est ça. C'est tout à fait.
Comme si j'étais dans la musique.
Exactement. Donc c'est inaudible, on n'entend pas.
Et vous ressentez quoi, Raphaël?
Ça fait des vibrations. On a le sentiment d'être vraiment dans le morceau. Je vais d'ailleurs faire circuler le casque pour partager l'expérience. Là, c'est Get Down On It, hein, mais vous voyez, il n'y a que moi qui l'entends.
Exactement.
Donc, comment est-ce que vous l'avez conçu, ce premier prototype de Basmi?
Alors, le premier prototype, donc Alban Duroy, il a eu l'idée. Donc, il écoutait de la musique avec une enceinte portable. Il était allongé sur son canapé, donc tranquillement. Et l'enceinte portable a basculé côté haut-parleur, sur son thorax. Donc il a vraiment ressenti les vibrations à ce moment-là, et il s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, donc il est allé directement dans sa cuisine. Il y a certains grands inventeurs qui l'ont fait dans le garage, lui c'était dans sa cuisine. Donc il est allé créer le premier prototype, donc
oui,
ce qui est devenu
étonnant,
Basmi aujourd'hui. Donc c'est un caisson de basse portatif.
On le ressent.
Qui permet d'amplifier l'immersion chez l'utilisateur à travers tous les sons qu'il peut écouter, que ce soit de la musique, des jeux vidéo, du cinéma, etc.
Donc le premier prototype est sorti l'année dernière, c'est ça?
C'est ça, exactement. Donc l'invention était en octobre 2017. Et donc on a commercialisé le premier produit. Donc on a lancé des campagnes de financement participatif sur une plateforme qui s'appelle Kickstarter. Et donc on a lancé des précommandes en mai. Et on livre les premiers produits depuis le mois d'octobre. Voilà.
Ouais, tout le monde est en train d'essayer,
exactement.
Tout le monde est bluffé par l'expérience. Et Éric Lemaire, c'est impressionnant.
Ouais, je suis bluffé par la ressemblance avec son papa déjà.
Et je suis vraiment,
c'est incroyable. On est complètement dedans.
Ouais.
Si on en avait plusieurs, je crois qu'on se mettrait à danser sur la table. Moi j'avais juste un truc que j'ai vu qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est le fait que ça permet de baisser en fait le son.
Exactement.
Et ça protège aussi les oreilles. C'est un vrai mal du siècle aujourd'hui, c'est 10 millions de personnes en France qui sont touchées aujourd'hui par les problèmes auditifs. Donc je pense que ça, c'est un vrai truc supplémentaire, presque RSE en fait. Hein. Et il faut le dire parce que c'est à la fois c'est très sympathique, c'est très clair, mais en plus, il y a cette préservation. Et on voit bien que les jeunes aussi essayent de pousser au maximum le son. Donc achetez-vous ce truc.
Tout à fait. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus. On est toujours. Donc les contenus de divertissement. On est toujours obligé de l'utiliser sans système son. Par exemple, les téléphones. Aujourd'hui, on regarde des vidéos, des films où on joue sur nos téléphones. Et on a tendance à augmenter le volume sonore. On n'a pas forcément des appareils audio qui conviennent aussi. Ou même en concert. Par exemple, en concert, pour avoir ce côté, ce kick, ce côté vibrant, on a tendance à se mettre le plus près des enceintes, le plus près des caissons, pour ressentir cette immersion. Donc là, nous, à la maison, on peut avoir justement cette immersion tout en baissant le volume audio.
À la maison, donc ça veut dire que dans un futur proche, peut-être, on pourra le faire aussi en concert avec des systèmes qui ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui.
C'est ça, on l'a déjà d'ailleurs. On est actuellement au cinéma, donc dans les salles de cinéma, donc dans une en particulier au cinéma, donc au Méga Castier de Perpignan, où on a lancé des phases de tests. Donc on est actuellement dans les salles de cinéma, comme le principe des lunettes 3D. Donc les gens vont venir dans la salle, avec une location et vont pouvoir profiter de leur séance de cinéma avec une immersion supplémentaire.
D'ailleurs, aujourd'hui, dans l'utilisation, qu'est-ce qui est le plus demandé ? C'est la musique, le gaming ou le cinéma ? Et qu'est-ce qui sera le plus demandé demain, d'après toi ?
Il y a un petit peu de tout. Musique, jeux vidéo, beaucoup. Le monde du gaming, c'est aujourd'hui immense. Il y a vraiment un intérêt, que ça soit dans l'e-sport ou genre juste le gaming chez soi, PC ou console. Et voilà, d'avoir cette immersion supplémentaire, d'avoir vraiment un atout. Et même nous, on a aussi une grande partie pour l'accessibilité, que ce soit pour les sourds et malentendants.
Alors justement, oui, parce que je rebondis sur ce que disait Eric, vous l'utilisez pour les personnes qui sont malentendantes et aussi pour les troubles autistiques.
Bien sûr, tout à fait. Pour les troubles autistiques, nous, on a eu, j'ai reçu un message un jour donc sur les réseaux sociaux d'une dame qui nous a dit, donc je suis mère de deux enfants en bas âge atteint d'autisme sévère, et grâce à votre produit, ils vont pouvoir ressentir les choses, ressentir ces vibrations-là. Et pour les personnes sourdes ou malentendantes, il y a vraiment un réel intérêt. Nous, on a des utilisations qui sont insoupçonnées, et c'est vrai que ce côté vibrant est hyper important pour eux.
Oui, Patrick Fabre, vous vouliez réagir ?
Mon témoignage, parce que moi, j'ai deux grands-parents qui étaient sourds, et je peux confirmer qu'effectivement, le seul moyen de transmettre à ma grand-mère l'expérience de quand je jouais du violon, c'était pour elle de venir toucher le violon et de sentir les vibrations.
La résonance.
Vraiment très important pour elle. Donc bravo pour ça. Je pense que...
Merci. Bah, c'est la meilleure réponse, la plus belle victoire pour nous, en plus de faire ce genre de choses.
On continue à parler musique ensemble aujourd'hui sur Europe 1 dans La France Bouge.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et si tout ce qui vous entoure, là, tout de suite, devenait un instrument potentiel, c'est possible. Vous allez voir comment grâce à l'e-music. A tout de suite.
Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France Bouge avec BNP Paribas. Et on parle cet après-midi dans La France Bouge de musique et des innovations dans ce domaine. Pour agir, pour nous envoyer vos questions, pour nous dire comment vous écoutez votre musique, hashtag Europe 1, ça c'est pour Twitter. Le 3921, c'est pour le téléphone. Raphaël, vous avez dit Elisabeth. Oui, Elisabeth est à mes côtés.
Elle est là. Ne vous inquiétez pas, on va écouter de la musique ensemble. Ça, on le fait déjà depuis tout à l'heure, mais on aimerait aussi savoir jouer, avoir les bases, qui n'est pas mon cas. Bonjour Michel Brieux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est possible finalement aujourd'hui que je joue de la musique grâce à vous, grâce à l'e-music, l'appli que vous avez créée. Il faut dire que vous êtes musicien au départ, vous avez fait du piano, vous avez aussi une licence de musicologie.
Tout à fait, oui. Oui, j'ai les bases musicales effectivement nécessaires.
Et alors comment vous est venue l'idée de cette appli, l'e-music ?
Ben c'est en fait, j'ai fait une carrière au conservatoire un peu comme tout le monde et en fait on m'a pas appris les choses essentielles. Et c'est quand j'ai commencé à faire du bal, en fait je me suis rendu compte que...
Du bal musette ?
Du bal, oui, on faisait des reprises de beaucoup de choses. Et en fait avec 3, 4, 5 accords on va faire des milliers de chansons.
Oui, vous vous êtes aperçu, en jouant finalement, qu'il y avait toujours les mêmes accords qui revenaient et qu'il suffisait de les connaître pour pouvoir pratiquement tout jouer.
Et le problème de la technique musicale, c'est que dès qu'on change de tonalité, on a pratiquement tout à réapprendre parce que la musique n'est pas ergonomique et il faut se tordre les doigts pour apprendre des accords ou des doigtés ou la colonne d'air pour jouer juste. Voilà. Et donc avec l'e-music, en fait, c'est un nouvel instrument de musique polyphonique live, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer son piano, sa guitare ou son accordéon. Et on n'a pas besoin de solfège et on n'a pas besoin de technique. On peut jouer tout de suite.
Donc l'idée, c'est 2005, 2006, c'est ça ?
Voilà la première idée. Et donc là, je l'ai relancée depuis 3 ans. Parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait... Moi, j'ai un problème de droit d'auteur. J'ai pas les autorisations. Et aujourd'hui, grâce à YouTube, on peut mettre des covers et toutes ces choses-là. Et rendre l'application disponible et l'apprentissage au public.
Alors, la nouvelle application, elle est sortie récemment, en 2019, la version améliorée. Elle est accessible sans Internet aussi, je crois.
Alors, elle est accessible sur tout support, sur le site limousique.com, bien sûr. Et on peut la télécharger sur Google Play, Apple Store et sur Steam pour la version ordinateur.
Alors, comment ça marche ? Évidemment, on a tous envie de savoir. Vous nous montrez ?
Alors, la première chose, c'est qu'on n'a pas besoin de solfège parce qu'en fait, on va utiliser une grille d'accords. On a un petit utilitaire dans l'application où on va rentrer les accords qu'on veut utiliser. Et ça va être très souvent les mêmes. On va pouvoir transposer dans toutes les tonalités. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on n'en a pas besoin. On va utiliser A, B, C, D, E, F, G, c'est-à-dire la notation des accords en anglais parce qu'on trouve que ça sur Internet. Et une fois qu'on a rentré ces accords, on va sélectionner une fondamentale, comme ça, et ça va reparamétrer toutes les autres touches. Ce qui fait que là, je fais un accord de Do, et avec un seul doigt, j'ai un accord complet de Do. Et toutes ces touches-là, avec un petit son de violon, je suis sur mon accord de do, je passe en sol.
C'est-à-dire que là, vous mettez le doigt sur l'écran n'importe comment,
tout
et ça
simplement.
Joue.
C'est de l'harmonie voilà. sur tablette.
La pianiste a parlé.
Voilà. Et avec quatre accords. No woman, no cry. No woman, no cry.
Alors, on a annoncé la pluie, je peux chanter.
Voilà.
Hein. Bon, oui, c'est bluffant. Voilà. Dites-moi, on l'écoute comment la musique, nous, les Français, vous savez ça?
Ah, mais bon, il n'y a plus trop de disques, on l'a vu. Hein,
oui. Le vinyle, le CD,
le vinyle,
tout ça, c'est
CD,
terminé, la cassette.
On peut les appeler les dinosaures un peu, en plastique. Et grâce au streaming, le marché est reparti. Vous savez que le streaming a généré plus de la moitié des ventes globales, hein, plus de 59% des ventes, et tout particulièrement grâce aux abonnements payants. Les abonnements payants, c'est la première source de revenus devant le CD. Ils progressent sans arrêt. Ce streaming payant, on peut écouter donc de la musique à travers des plateformes que nous connaissons tous. Hein, je vais vous en citer quelques-unes, Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal, Qobuz, et ça concerne aujourd'hui plus de 5,5 millions d'utilisateurs en France, et ça ne fait que grandir.
Oui, et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on écoute pas mal de musique française.
Et mais oui, et dans ces chiffres qui sont sortis ce matin, les artistes produits en France représentent 80% des meilleures ventes, et 19 des 20 meilleures ventes de l'année 2019 étaient produites en France. Lady Gaga, qui fait figure d'exception.
Que dit notre coach Éric Lemaire à propos de cet appareil dingue? Moi j'aurais aimé être musicienne finalement. Avec les musiques, je me rends compte que c'est possible.
Oui, alors c'est-à-dire que là, dans le studio, on a tous l'impression qu'on va devenir très rapidement musicien, très facilement. Sans doute.
En train de réfléchir.
Votre cible d'ailleurs, c'est, j'imagine, bon, les enfants, les adultes.
Le grand public.
Le grand public. Mais je me demandais si c'était pas un truc super pour les personnes âgées. Parce que je me disais que, est-ce que ça peut ne pas jouer justement contre les maladies dégénérescentes, contre la maladie d'Alzheimer, et justement essayer de se dire qu'en plus de toutes les cibles que vous aurez bien évidemment, et tous ces jeunes qui vont enfin pouvoir apprendre sans faire du solfège, ce que j'ai fait moi, c'est horrible, eh bien, est-ce que c'est pas possible, justement, d'en dire, c'est quelque chose qui médicalement peut aussi intéresser?
Alors bien sûr, oui, ça a été étudié par le laboratoire de sémiotique à l'Université de Limoges, donc effectivement, tout ce qui est maladie neurodégénérative, Parkinson, Alzheimer, donc là, moi, je suis en test avec des centres handicapés, mentaux et physiques, parce que ça demande très peu de ressources physiques et mentales. Et on a tous un background musical, effectivement, où on connaît tous des milliers de chansons. Le problème, c'est que pour les jouer avec un instrument, il va falloir minimum 6 mois pour une guitare et 3 à 4 ans pour un piano, et ça va rester difficile. Et là, on va tout de suite y arriver très facilement.
Oui, vous travaillez avec un IME, hein, c'est ça?
Un IME, un EIM, donc un établissement aussi de l'APF. Et puis aussi, c'est en étude avec des musicothérapeutes et avec aussi l'Académie de Versailles. Donc, parce qu'en fait, la cible principale, ça va être les professeurs des écoles qui ne sont pas musiciens, qui doivent animer des classes en musique. Et puis, la deuxième cible aussi, c'est les écoles de musique. Parce qu'au bout d'un an, il y a 70% des élèves qui abandonnent.
Voilà. Parce que c'est rébarbatif d'apprendre.
Voilà, parce qu'ils apprennent le solfège pendant 1h30, ils font 1 demi-heure d'instrument, et à la fin de l'année, ils ne savent rien faire. Alors que moi, un enfant de 3 ans, je fais faire ça, avec 2 doigts. Éléphant qui se balance, etc.
Sur une toile d'araignée.
Il trouvait ce jeu-là.
Sur
les guitares. Et puis après, on peut faire le répertoire, on peut faire du Ed Sheeran. On peut faire
très belle interprétation du roi d'Agobert, d'ailleurs, en ligne de monsieur, j'ai vu sur Internet.
Le roi d'Agobert a mis sa colonne à l'envers. Voilà.
On reste ensemble et on continue à parler musique et à chanter, bien sûr, sur Europe 1. Il est 13h38.
Europe 1.
Et on vous attend, hein, si vous avez l'oreille musicale. Venez, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge avec vous. A tout de suite. Dans la France bouge cet après-midi, on parle des innovations dans le domaine de la musique. Raphaël, et on en parle avec vos invités. Patrick Fabre, président de la société Monkey, premier service de streaming audio jeune public. Raphaël Guichard, cofondateur de Bassmi, un caisson de basse portatif personnel qui permet de ressentir le son d'une manière différente. Et Michel Brieux, président fondateur de Limusic, l'application qui transforme tous vos appareils connectés en instruments de musique polyphonique. Notre coach aujourd'hui, c'est Éric Lemaire, directeur de la communication de la marque et de la RSE chez AXA France, évidemment à mes côtés. Et Elisabeth Assayag est là. Et tiens, si on commençait par écouter de la musique.
Ah, bonne idée.
Coucou. Coucou, ça va? Oui,
des devinettes avec moi ?
Oui, je veux bien.
Tu as vu cette petite maison ? Tu sais qui habite là ?
Non, je ne sais pas.
Alors, c'est un extrait de ce qu'on peut retrouver sur Monkey, Patrick Favre.
Oui, tout à fait. C'est un éditeur que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Benjamin Media. Ce sont de vrais orfèvres de la post-production qui savent enregistrer des enfants et marier ça avec des sonorités d'une poésie folle.
Oui, on entend effectivement, on est porté par la musique et par la voix, par le côté enfantin.
Oui, complètement. Alors les histoires, voilà, c'est extrêmement varié. Ça va effectivement d'une histoire classique, plus lue comme dans les livres papier, avec l'émergence aujourd'hui de tous les livres audio, jusqu'à des choses très poétiques. Là, on a une initiation au son, au bruitage. Les enfants vont pouvoir découvrir les sons des animaux, puis ensuite les sons des instruments, et ainsi de suite. Donc il y a un art de faire du jeune public.
Alors, on l'a dit, vous travaillez avec les bibliothèques, avec les crèches aussi, et vous êtes en train de vous développer en direction de la Suisse, du Luxembourg, du Canada ?
Oui, alors déjà avec les bibliothèques, effectivement, bientôt au Canada, là, et puis déjà en Suisse. On est aujourd'hui dans plus de 1500 bibliothèques en France. On en compte 16 000 en tout. L'aventure a commencé début 2017, voilà, et puis l'année dernière, en 2019, on a ouvert notre application au grand public. Ça a été notre phase de bêta, comme on dit, voilà, où on a pu expérimenter le service auprès des familles.
Oui, il y a une nouvelle version qui est prête pour cet été, c'est ça ?
Tout à fait. C'est-à-dire cette année d'expérience et de retour d'utilisateur va nous permettre de proposer une nouvelle version encore plus fluide, rééditorialisée et puis avec une navigation améliorée, voilà.
Se tourner vers le grand public, c'est aussi évidemment votre ambition chez Basmi, Raphaël Guichard. On ne l'a pas dit, mais vous êtes d'ores et déjà distribué.
Bien sûr, on est déjà disponible donc sur notre site, entre autres, donc basmi.fr, B-A-2-S-M-E, et chez quelques distributeurs comme Boulanger ou Auchan. Voilà.
Combien d'enceintes vendues déjà ?
Donc depuis un petit peu plus de 6 mois maintenant, on est à 2500.
2500, et ça voilà. Coûte combien,
ça
ce
coûte
dispositif ?
129 euros, prix public, voilà, et après... Voilà, toutes les infos sur basmi.fr et sur nos réseaux sociaux.
Michel Brieux, combien de personnes ont commencé à utiliser l'e-musique depuis...
Là, j'ai à peu près 5000 personnes qui l'utilisent.
Et alors, quels sont les premiers retours ?
Écoutez, les gens peuvent jouer de la musique, donc j'ai beaucoup de sourires, je fais beaucoup d'ateliers et les gens sont assez surpris. Voilà, donc les gens qui veulent découvrir l'e-musique, c'est L-I-M-O-U-Z-I-K. Parce qu'en fait, il n'y a aucun mot-clé. Tous les mots-clés sont tellement pris déjà que personne ne peut me trouver en me cherchant. Voilà, et puis après...
regardez-nous, on vous a trouvé.
Oui, bien sûr. Oui. Mais je vous remercie beaucoup.
Ouais, grâce à Laetitia Farine, qui est de l'autre côté de la ville.
Et donc, on parlait de handicap. Le gros avantage aussi de l'e-musique, c'est l'égalité sociale. C'est que comme c'est tellement peu cher et qu'on a tous les supports, alors si on va en Afrique, par exemple, il n'y a pas d'école de musique, il y a très peu d'instruments. Par contre, ils sont équipés de téléphones et c'est aussi disponible sur smartphone. Donc, on va pouvoir faire exactement la même chose.
La musique accessible à tous.
Et j'en profite, vous parlez de l'Afrique. Vous travaillez avec la Fondation Orange, justement, pour essayer de faire en sorte que ce soit démocratisé, ce
exactement.
Système-là.
Exactement. Donc, ils ont un programme école numérique. Et donc, l'e-musique est partie en Afrique avec ce programme-là. Dans les écoles, sur des Raspberry Pi, des choses comme ça, donc ils vont pouvoir en disposer.
Éric Lemaire ?
Non, je trouve ça incroyable, mais je me demandais si ce n'était pas une sorte de rébellion de votre part d'avoir créé ça, finalement, au départ, non ? Parce que vous avez le chemin
classique.
Oui,
mais dans chaque invention, il y a effectivement une contestation de l'ordre établi, on va dire. Et effectivement, de temps en temps, quand je présente ça à certains musiciens, je les vois qui se liquéfient parce que pour eux, la musique,
sacrilège. C'est sacrilège.
Voilà, on est dans un truc judéo-chrétien, il faut que ça soit compliqué, il faut que ça fasse mal. Mais bon, moi ce matin, j'ai pris ma douche, j'ai tourné le robinet, j'avais de l'eau chaude. Voilà, je suis pas allé dans les bois faire du feu, et puis donc ça fait partie de... Et c'est quelque chose, c'est une solution intermédiaire, ça remplacera pas le philharmonique de Berlin, ça c'est sûr.
Ah bon ?
Mais par contre, malheureusement...
On peut essayer, non, peut-être, de remplacer le philharmonique de Berlin, non ?
Là, ça va être un petit peu...
Libre cours à votre imagination, on vous écoute.
Ce que je peux faire, c'est des trucs hyper connus. On peut faire Ed Sheeran. I found a love for me. Dolly, just dive right in and follow my lead. I found a girl beautiful and sweet.
knew you were the someone looking for me. Cause we were... etc. Le refrain, enfin on peut faire.
Oui, et puis
Lady
alors
Gaga.
Avec Basmi, pour écouter, on ressent encore plus la musique que l'on joue. Elisabeth, on est bon hein, quand même, Cocorico, les Français sont spécialisés, notamment dans la distribution numérique.
Et oui, il y a une entreprise, c'est le groupe Believe, qui existe depuis déjà pas mal de temps, très précurseur, 2005, qui s'est spécialisé donc très tôt dans la distribution numérique de la musique. Hein. C'est un acteur majeur du secteur. Ils sont présents sur toutes les plateformes audio, vidéo. Et voilà, et donc heureusement, on a sept acteurs majeurs en France déjà depuis 2005.
Et puis difficile de se mettre souvent d'accord sur ce qu'on a envie d'écouter quand on est en soirée entre amis, tout à fait. Et là aussi, je crois que vous avez trouvé une solution française.
Partify, P-A-R-T-Y-F-Y, qui permet de créer des playlists, mais pas tout seul dans votre coin. Ce sont des playlists collaboratives avec vos invités en amont ou pendant la soirée. Ça vous plaît bien ça, Eric, j'ai l'impression.
Oui,
chacun peut voter pour ce qu'il a envie d'entendre, d'écouter. Il peut faire monter ou descendre lors de diffusion, ajouter des morceaux. Et tout ça, c'est possible grâce à de l'intelligence artificielle. C'est une application qui peut faire même des suggestions en fonction du type de musique choisie au cours de la soirée.
Voilà, vous avez encore trois belles innovations découvertes aujourd'hui par l'équipe de La France Bouge. On est ravis de vous avoir reçu. Merci à Patrick Fabre, à Raphaël Guichard et à Michel Brieux d'avoir été avec nous.
Il est 13h47.
Europe 1.
Et on reste ensemble, on va s'intéresser à une entreprise que vous connaissez sûrement. La chambre de votre bébé est peut-être sortie de chez eux. C'est Sauton, spécialiste de la puériculture depuis 1948. À tout de suite.
Et avant, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien, on écoute Louis Chédid de Noté qui se produira au Francophonie de La Rochette du 10 au 14 juillet prochain. On l'écoute avec un extrait de son nouvel album qui porte le même nom que ce titre. C'est Tout ce qu'on veut dans la vie. Louis Chédid sur Europe 1. Bel après-midi à tous. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'était Louis Chédid sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le moment, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, eh bien, c'est Sauton. Bonjour, Laure de Jamais.
Bonjour, Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de Sauton, entreprise qui date de 1948, entreprise de puériculture, hein, qui a commencé par les berceaux, par les lits. Il faut dire que quand ça démarre, on est en plein baby-boom, après-guerre.
Exactement. Donc l'entreprise a été créée juste au moment où la France amorçait sa reconstruction et devait faire face à une demande importante en termes de lits et de berceaux. Donc il y avait une fabuleuse opportunité à ce moment-là. Et c'est Alfred Sauton qui a développé les premiers berceaux en région parisienne dans un petit atelier à Montgeron.
Comment lui vient cette idée de se lancer dans ce secteur-là, il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer après-guerre, justement.
Oui, oui. Au niveau, alors notre activité est très dépendante de la démographie, et là il y avait vraiment un élan très très fort et un besoin très fort.
Alors, je crois que vous avez d'ailleurs retrouvé des berceaux qui datent de l'époque, quelques lits de 1948.
Donc ça ne se voit pas à l'entête, mais je vous ai amené le premier catalogue.
On va les montrer pour ceux qui nous suivent évidemment sur Europe1.fr, parce que vous savez, maintenant on a aussi des caméras dans le studio d'Europe 1, donc on va pouvoir les montrer.
Voilà.
C'est vrai que c'est étonnant de se dire qu'il y a toute cette histoire qui est liée aussi effectivement à l'histoire de France finalement, puisqu'on est après-guerre.
Complètement.
Alors, vous l'avez dit, l'entreprise, elle est à Paris au début. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle part dans la Creuse?
Alors, elle part dans la Creuse pour deux raisons. Parce que la demande est grandissante et que l'atelier de Montgeron, en termes d'espace, n'est plus suffisant. Il y a les approvisionnements de matières premières également. Et puis, les origines creusoises, par géographie familiale de la famille Sauton, tout simplement. L'opportunité nous ramène dans le département de la Creuse cette activité, qui est une activité traditionnelle et implantée maintenant depuis 67 dans le département. 1967.
Votre père arrive dans les années 70.
Oui.
C'est vrai que c'est un peu le creux de la vague à ce moment-là, 70-80. Et c'est lui qui va relancer finalement, l'entreprise change de famille, mais il va relancer la marque.
Alors il va relancer la marque, toujours dans un esprit familial, parce que si la direction change, les équipes, le savoir-faire industriel et les familles, parce que dans des départements comme les nôtres, nous employons parfois des familles entière à cette époque-là. Et le marché change. L'atelier devient une industrie. Les magasins de centre-ville se développent de moins en moins au profit des centres commerciaux. Et le mobilier devient aussi un produit de grande consommation. Donc il faut produire plus, il faut produire autrement, il faut s'industrialiser. Et c'est effectivement mon père qui a développé et présidé cette entreprise pendant une trentaine d'années.
Vous, vous arrivez dans les années 90 pour le rejoindre. Sauton, quand vous étiez petite, c'était la marque de luxe, on peut le dire comme ça ?
Exactement. Moi, j'ai des souvenirs d'enfant, d'odeur du bois dans les ateliers. C'était le produit un petit peu privilège. Et j'avais pour habitude de dire, alors je ne sais pas si on peut citer d'autres marques, mais que c'était le Chanel de la puériculture, dans mon
Chanel
esprit d'enfant.
Alors justement, comment il fait le Chanel de la puériculture pour lutter aujourd'hui, en 2020, face aux chambres moins chères, aux grandes surfaces, je pense évidemment à un grand groupe suédois comme Ikea. Comment est-ce qu'on arrive à rivaliser ?
Alors nous-mêmes, nous nous sommes adaptés à ces évolutions de marché, parce que nous sommes présents sur tous les segments, que ce soit de la grande distribution, avec d'autres marques bien évidemment, que sur le marché haut de gamme. Et là, notre dernière actualité, et ça me tient particulièrement à cœur, c'est de renouer avec nos origines et de lancer là, dès le début du deuxième semestre, une marque premium, Sauton Original, qui reprend à la fois les lignes de 1948 pour partie, que vous aviez dans le document sépia que nous avons visionné tout à l'heure, et qui renoue avec les belles matières.
Éric Lemaire, belle histoire encore que celle de Sauton.
C'est une belle histoire française, c'est dans la Creuse, donc il y a des bonnes choses. Moi, j'ai regardé votre site et je trouve que vous avez toujours été engagé sur la sécurité, sur l'environnement, etc. Mais vous ne le mettez pas assez en avant. Parce que c'est vrai, vous avez des assemblages, vous n'avez pas de colle, donc vous faites attention à la santé du bébé. J'ai un bébé de 8 mois, donc je suis d'ailleurs presque un de vos clients, je suis complètement conquis. Mais je crois que vous devriez encore plus mettre tout ça en avant, parce qu'aujourd'hui, ces choses-là, elles sont importantes et on en parle. Et c'est ce qui peut faire parfois la différence avec des grands groupes comme vous parliez tout à l'heure.
Alors, je suis pleinement d'accord avec vous. En fait, dans la Creuse et dans l'industrie en général, on est déjà un peu sérieux. On ne parle pas trop de ce qu'on fait. On le fait très bien, on y croit.
Mais on ne le dit pas.
Mais on ne sait pas le dire et on ne sait pas le valoriser. Pas suffisamment. Et je tiens à remercier une très belle initiative à laquelle nous avons participé, puisqu'on a été sélectionnés en janvier pour participer à la grande expo du fabriqué en France à l'Élysée pendant 3 jours. Expo qui se continue à Bercy pour la 10e semaine de l'industrie, à laquelle nous serons conviés pour un événement de lancement. Mmh. Les produits sont valorisés, le savoir-faire traditionnel français. Et effectivement, on était un petit peu trop timide dans le faire savoir. Le savoir-faire, on l'avait, et le faire savoir n'a pas été suffisant.
Il y a aussi quelque chose que je voulais qu'on aborde, c'est le recrutement. C'est pas facile de faire venir dans la Creuse du personnel. Vous avez 120 personnes à peu près qui travaillent avec vous, 150 ?
Oui, 140 personnes, on fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas facile. Alors, comme je l'évoquais au début, on avait un savoir-faire très traditionnel avec parfois le frère, la sœur, la tante, l'oncle, des familles entières qui travaillaient chez nous. Et puis, avec la pyramide des âges et le changement de mode de fabrication, mais tout ça a évolué, il a fallu s'adapter.
Mais il y a du travail.
Alors, on a une super qualité de vie. On est à 3 minutes du boulot. Donc, on n'a pas trop de problèmes de grève. Et on a une équipe maintenant renouvelée par cette nouvelle génération qui arrive, qui a envie, qui porte les couleurs de la marque et du fabriqué français. Donc on a des postes à la fois dans les nouveaux métiers, du digital, de la communication, de l'informatique, parce que l'informatique, c'est vraiment le support et la colonne vertébrale à ce développement, mais aussi sur tous les métiers industriels plus robotisés, les pilotes de commande numérique notamment, puisqu'on fabrique aujourd'hui certains mobiliers comme on fabrique des voitures, avec des robots.
Et tout est fait en France, et vous participez, je tiens à le signaler, à la gestion durable des forêts. C'est Sauton, S-A-U-T-H-O-N, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous raconter
infiniment.
Une partie de son histoire. Merci à Éric Lemaire qui était notre coach aujourd'hui, directeur de la communication de la marque et de la RSE chez AXA France. Elisabeth et Céline, on se dit à demain, midi sur Europe 1.
À demain Raphaël Duchemin, c'était La France Bouge avec BNP Paribas. Vous voulez créer votre entreprise, BNP Paribas est à vos côtés pour lancer le projet auquel vous croyez. Rendez-vous sur lancezvous.bnpparibas. Et on reste sur Europe 1 dans un instant, c'est Christophe Ondelatte.